Propos sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Dans les studios de Radio Centre-Ville, aujourd'hui à Montréal, nous avons Robert Rivard.
Bonjour.
Jackie Lacourcière.
Bonjour, bonjour.
Franck.
Salut.
Et moi-même, Nicolas Lehoux. Alors, le thème de cette émission aujourd'hui sera « Les attractions sont proportionnelles aux destinées ». Je crois que les gens qui viennent dans notre vie, c'est pas un hasard. Moi, je crois pas au hasard.
Absolument.
Je crois qu'on a déjà eu une émission sur le sujet, d'ailleurs. Et il me semble que quand on rencontre des gens qu'on crée des familles, des groupes, il n'y a pas d'hasard. On a vu souvent des avions s'écraser avec un paquet de gens qui n'ont de prime abord rien à voir ensemble. Mm-hmm. Et pourtant, ils se sont tous rassemblés cette journée-là. Certains même ont décidé de ne pas embarquer dans l'avion. Il y a comme un chassé-croisé là, de destin. Comme... Et oui. C'est ce qu'on veut dire là, par les attractions sont proportionnelles aux destinées. Est-ce que certains d'entre vous ont réfléchi sur
oui,
ce sujet?
Oui, bien oui, moi j'ai réfléchi. D'ailleurs, c'est moi qui avais proposé ce thème-là parce que oui, okay. Pour une raison, parce qu'entre autres, c'est un mot de Charles Fourier, qui est un philosophe français du 19e siècle, et c'est une phrase qui me parle beaucoup à moi et que j'ai même incorporée à mon roman, qui en général, petite parenthèse, alors La fuite en bleu, avec comme sous-titre Une aventure méditerranéenne, très très bon roman, très captivant, que vous pouvez retrouver en librairie en ce moment. Et puis, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, les attractions sont proportionnelles aux destinées? Ça veut dire qu'on peut se rendre à l'autre bout du monde pour rencontrer l'ami de notre essence. Hein? On peut être à un endroit où est-ce qu'on n'aurait jamais pensé imaginer et on va rencontrer des gens, par exemple, avec lesquels on va unir notre destin. Mais comment ça se fait ça? Ben, c'est à cause justement, c'est l'attraction. L'attraction que nous portons de par nos propres vibrations qui va faire en sorte qu'on va attirer à nous des gens à notre ressemblance ou non, selon que les gens vont être là soit pour nous aider, nous soutenir ou nous rendre la vie plus difficile, mais en même temps, toujours dans un but précis, parce que je pense que nous attirons à nous les gens selon nos propres vibrations pour nous aider à grandir.
Ben, exact. Ben, c'est là que moi, je regarde l'énoncé du thème. Là. Alors, les attractions, ça implique qu'on reconnaît, nous tous ici, un principe magnétique.
Mm-hmm, absolument.
Qu'un principe d'attraction, un principe magnétique. Donc, j'attire, oui, quelque chose dans moi attire quelque chose. Ça, c'est le deuxième mot, c'est proportionnel. Donc, ça implique aussi qu'une variation, on peut varier l'intensité de cette attraction. Alors, moi, je vous pose, mes amis, la question suivante. Comment définissez-vous le principe d'attraction? Et aussi, comment voyez-vous le mécanisme de variation de cette intensité?
Mais au Québec, on a une expression qui est « avoir des atomes crochus ».
Oui.
Exact. Et cette intensité, en fait, elle est donnée par plusieurs paramètres. Parce que selon dans quel état d'esprit on est, moi j'ai remarqué, par exemple, dans mon existence, jusqu'à maintenant, que selon le degré d'intensité d'importance que j'accordais aux choses, et la pression que je pouvais me mettre par rapport à ça, déterminait et conditionnait vraiment des cadres de situations. Par exemple, dans le cadre professionnel, le fait de vouloir absolument réussir ou que ça fonctionne ou autre, eh ben, la réaction qui est en face de ça, ça va être une espèce de gros morceau indigeste qui va vous rendre la vie plus difficile, parce que par rapport à ce que vous avez défini comme étant important, n'est peut-être pas quelque chose qui vous est propre, mais peut-être que c'est calqué sur ce que la société vous dicte. Mmh. Et donc, par rapport à ça, à partir du moment où vous n'êtes pas aligné sur votre moi, sur votre cœur, appelez ça comme vous voudrez, mais les éléments vont se mettre en résonance, mais de force, de façon inversement proportionnelle à ce que vous aimeriez avoir. Et ça, c'est intéressant de le vivre parce qu'on se dit, mais pourquoi j'ai fait tant d'efforts, par exemple, pour que ça marche et que c'est exactement l'inverse qui se met en œuvre. Il y a une injustice là.
Oui.
Et c'est intéressant de décoder ça, de prendre du recul par rapport à ça, pour se dire, bah, attends, c'était peut-être pas ce que je veux vraiment au fond de moi.
Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la nolonté. Hein? On en a déjà parlé. Oui, c'est ça que je veux, mais en même temps, je suis sur les freins à cause de ça. Alors là, ça annule. Ça pourrait expliquer.
Ce que tu mentionnais à l'instant là, d'importance, de résonance. Et donc là, ça fait vraiment, c'est vraiment représentatif de ce que ça peut mettre en œuvre.
Moi, je suis rendu à un point de considérer que c'est la nature même de la pensée qu'on choisit qui est l'objet magnétique. Mm-hmm. Donc, que ce soit une bonne pensée, mauvaise pensée, le système est impersonnel. Et je crois qu'avec avec ça, l'intensité de l'émotion accordée à la pensée va comme accélérer ou non. Cette manifestation-là. Autrement dit, il faut que je sois positivement excité pour un, tu sais, joyeusement, avec beaucoup d'enthousiasme vis-à-vis un sujet spécifique pour l'attirer rapidement. De l'autre côté, si je suis à moitié blasé,
Moi, j'ai l'impression que ça dépasse même la personne parce que le sujet tourne beaucoup autour de la personne présentement, mais en réalité, quand on parle à la fin, on dit au destiné, proportionnel au destiné.
Mais le destiné, c'est le résultat de cette attraction, non?
Pour moi, la destinée est le résultat de ce que j'ai choisi avant de venir dans mon corps humain. Avant même que Nicolas Lehoux existe, moi, j'existais. Je suis. Alors, c'est ça le destin, à mon avis. C'est ce qui a déjà été ce que certains peuvent appeler le plan de vie ou le dessein ou la finalité de la vie. Ou en philosophie, on pourrait dire l'entéléchie, ce qu'on s'est donné à être. Et alors, je pense que c'est beaucoup plus vaste. Oui, il y a peut-être cet aspect-là plutôt au premier niveau où la personne, ses désirs, mais il me semble que quand on regarde des gens comme le Jésus, le Christ ou le Bouddha, c'est parfois à leur corps défendant qu'ils sont des sauveurs. Et je ne crois pas que quelqu'un peut décider parce qu'il veut être le Christ qu'il va l'être. Je crois qu'il s'est donné à être avant. Puis si on regarde un peu l'histoire de certains maîtres, ils sont très surpris eux-mêmes de l'intérêt qu'ils éveillent.
Nicolas, moi je pense que leur personne comme telle est surprise de voir leur accomplissement. Mais ce que tu as dit avant, que je trouve bien pertinent, c'est que tu as parlé de l'entéléchie. Bon, l'entéléchie, c'est un bien grand mot, là, c'est philosophique. C'est le premier qui était en parlé, c'était Aristote, et puis ça a été repris par la suite. Mais en fait, ça veut dire le destin. Savoir que avant même de venir au monde, comme tu l'as très bien expliqué, nous choisissons déjà notre sexe, dans quel pays on va naître, nous choisissons nos parents et si on va devenir un pompier, avocat ou quoi que ce soit. Nous avons déjà, ce que tu parlais tantôt, un plan de vie. Là, on arrive avec ça. Maintenant, moi, je pense qu'il y a deux destins. Alors, il y a ce qu'on appelle le petit destin, qui est le destin de l'homme standard, moyen. Auprès d'un homme moyen, dans toute sa vie, il va peut-être circuler 1 000, 2 000 personnes plus ou moins importantes là, hein, près de lui. Alors que celui qui va se donner un grand destin, comme Bouddha, justement, Jésus, les grands initiés, alors eux vont se donner ce qu'on appelle un destin métaphysique. Et là, eux vont rejoindre peut-être des milliards de personnes donc ils vont laisser leur marque. Mais ce que tu disais tantôt, moi, ce que je pense, c'est que leur personne comme telle peuvent être très surpris de voir qu'ils ont accompli quelque chose d'aussi grand, mais il y a quelque chose en eux déjà qui était préparé à ça, de par leur grand destin finalement, leur entéléchie métaphysique.
C'est ce que je voulais ramener sur l'idée de que c'est pas nécessairement toujours conscient. Mm-hmm. Pourquoi cette centaine de personnes entrent dans cet avion qui va s'écraser?
Oui.
alors qu'il y en a trois qui vont manquer leur avion cette journée-là. Elle ne voulait pas mourir. Il n'avait pas rien à voir avec ces gens. Mm-hmm. Mais ce n'est pas toujours réfléchi. Parfois, oui, on peut se dire, OK, mais j'ai bien souvent, j'ai l'impression que ça dépasse notre personne, dépasse notre compréhension.
Parce qu'on n'a pas toutes les informations, de toute façon. On a, tu parlais de premier niveau, de deuxième niveau de la pensée, mais c'est ça. On n'a absolument pas tous les éléments pour tout décoder. Par contre, ce qui nous reste, c'est de voir que, par exemple, telle réaction provoque telle circonstance, telle situation, et ça nous donne des éléments indicateurs qui nous permettent, après, pouvoir nous aligner sur ce qui nous fait vibrer véritablement. Et quand on a cet alignement, là, les choses se mettent en place complètement différemment.
Mm-hmm. Oui, c'est un fait. Bien, je suis d'accord avec ce que tu dis.
OK, bien, alors on va faire une petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Paris Combo et la chanson s'appelle Attraction. Et nous reviendrons après la pause avec ce thème-là qui nous casse la tête présentement. Les attractions sont proportionnelles aux destinées.
Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude et savourer tout en planant cette idée de plénitude. Sans un cœur qui bat, si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne serai pas sans mauvais effet, me pousser droit vers un leurre. Car si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Mais si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Je saurais bien trouver la manière d'apporter le bonheur. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat, si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne laisserai pas ce mauvais effet me pousser droit vers à l'heure. Car si l'amour n'est pas sur terre, je
aujourd'hui a pour thème « Les attractions sont proportionnelles aux destinées ». Il y a comme un pôle d'attraction là, qui se développe en vertu des intérêts communs entre les gens. On a remarqué ça, sûrement vous avez tous remarqué ça dans la vie. Par exemple, pour moi, la police et le criminel sont très dans la même vibration. Un ne peut pas vivre sans l'autre.
Oui,
la,
oui.
Pourquoi un enfant va venir au monde dans une famille d'alcooliques qui vont le battre, qui vont le violer? Pourquoi? Il me semble qu'il y a, il y a quelque chose de plus vaste. J'ai toujours pensé que c'est possible que quelqu'un qui vient dans une famille où il se fait battre, c'est possible que dans une vie parallèle, une vie simultanée, ce soit lui qui batte les autres et qui ait besoin de voir les deux aspects là, pour comprendre c'est quoi la réalité, c'est quoi les émotions.
C'est un bon point. J'aimerais revenir juste à un petit détail qu'on avait mentionné dans la première partie. Franck mentionnait que parfois on n'a pas toute l'information pour évaluer une situation ou être clair sur qu'est-ce qu'on magnétise. Et puis, Nicolas, tu avais donné l'exemple de l'avion où plusieurs gens se retrouvent dans un même destin et un destin triste quand un avion s'écrase. Et ça me fait penser à une histoire de Castaneda où il y avait une histoire dans la jeunesse de Castaneda où il y avait une situation où il y avait deux chats qui s'en allaient au vétérinaire là, pour finir leur... Ils ne pouvaient pas être adoptés, fait qu'il fallait qu'ils les mettent...
Les euthanasies.
Les euthanasies, oui. Alors, à un moment donné, il arrive une chose où un des chats va allègrement avec le maître ou le dans la voiture, puis l'autre, il y a une situation à un moment donné où la voiture, la porte ouvre et puis un des deux chats fuit. Son instinct, lui, fuit complètement. Il débarque de la voiture. L'autre, il va aveuglément, suit le maître, puis finalement, il se fait euthanasier. Oui. Il disparaît. Alors, je pense que la bonne information, puis ça retouche à ce qu'on a dit, d'être conscient, de revenir à être dans le présent pour savoir qui on est.
Oui.
Et de définir qu'est-ce qu'on veut être. Et en même temps, ceux qui sont complètement programmés, complètement ensevelis sur la culture populaire, ben, voient pas aussi qu'on l'amène éventuellement à l'abattoir.
Un exemple avant de passer la parole à Franck, c'est quand il y a eu un tsunami dernièrement. Oui. Tous les animaux ont senti quelque chose et ils sont partis. Mmh. Alors que les humains, dans leur folie, sont restés sur la plage. Ils n'ont rien senti. Je crois qu'on est très désensibilisés. Ouais. Ça va dans le sens que tu veux dire.
Donc, quelqu'un désensibilisé va avoir de la difficulté à contrôler cette loi d'attraction puis de la manifester ou l'utiliser dans la partie qui a une flexibilité, dans la partie où il y a une partie créative, dans cet aspect-là.
Je ne sais pas s'il va avoir de la misère dans ce sens-là, mais il va peut-être être moins dans son plan de vie.
Oui, c'est ça, il va manifester des choses qu'il ne veut pas, plus peut-être que des choses qu'il désire.
Parce qu'on attire toujours les gens qui nous ressemblent, peu importe si quelqu'un est totalement désharmonisé. Mm-hmm. Je crois qu'il va attirer des gens désharmonisés comme lui.
D'ailleurs, je pense que tu attires constamment, à des différents degrés d'intensité constamment, parce que ta pensée est toujours occupée.
Mm-hmm. Pour rebondir sur ce que tu disais, ce que j'avais dit tout à l'heure, dans le cas, on n'a pas toute l'information. On n'a pas toute l'information, à condition toutefois de ne pas être réceptif à son intuition. Alors, il y a l'intuition humaine, mais il y a aussi l'intuition animale. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand je suis allé en Afrique, j'ai assisté à une scène qui m'a vraiment marqué. J'allais voir justement donc les Bororo, qui le vendent. Et puis il y avait aussi donc ils croisent des agriculteurs, des paysans camerounais. Et je vois une vache, une vache là avec des grandes cornes. Enfin, je sais pas si c'était vraiment une vache ou un bœuf. Enfin bref, qu'importe. Et cet animal a mis une fougue incroyable pour ne pas suivre et se cacher dans la nature. Quoi. Mm-hmm. Et donc, il y avait des paysans qui couraient après. Et je pose la question, mais pourquoi se cache-t-elle? Et pourquoi fuit-elle comme ça? Bah, tout simplement parce qu'elle allait à l'abattoir.
Elle le sentait. Oui.
Et elle le sentait, mais alors avec une vigueur et une force. Oui. Et voilà. Et donc, ça me ramène à ce que lorsqu'on n'écoute pas notre intuition, c'est un petit peu ce qui nous arrive aussi. On va un petit peu, d'une certaine façon, à l'abattoir. Enfin, peut-être aussi radicale, là. Mais j'entends par abattoir, c'est-à-dire dans le flot-flot du train-train quotidien, c'est un petit peu la mort. Et donc, si on n'écoute pas cette intuition, cette voix intérieure, Ben, c'est un petit peu ce qui nous arrive aussi, quoi.
Si on va peut-être un petit peu plus profond, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant, par exemple, 500 ans avant Jésus-Christ, en même temps, sur la planète Terre, nous avons eu Zarathoustra, Pythagore, Bouddha, Lao Tzu et Confucius qui ont marqué le monde. Et moi, je crois que ça fait un lien à ce en quoi on parle aujourd'hui, c'est que ces attractions, ce n'est pas un hasard. Ils sont arrivés en même temps, ils ont changé la vibration de la planète.
Oui.
On peut parler aussi, aux mêmes époques, toutes les pyramides qui se sont construites sur l'échelle de la planète et qui ne se sont pas construites n'importe où non plus. Donc, que ce soit par la manifestation humaine, que ce soit par la manifestation des objets, on retrouve comme ça un espèce de lien, de synergie qui se met là et qui pousse quasiment en même temps.
Ouais, puis si on refait, bon, si je fais une bascule vers aujourd'hui, je regarde ma vie par exemple, pour moi, il n'y a pas de doute que j'ai choisi mon nom. J'ai choisi de vivre au Québec. Oui, oui. J'ai choisi de naître au Québec dans une famille qui m'a aimé, dans un pays où il y a l'aide sociale par exemple, où pendant 10 ans, j'ai pu ne pas travailler. Moi, je suis très fier de dire que je n'ai pas travaillé avant l'âge de 35 ans. Mais ça, je rencontre beaucoup de gens de l'Amérique latine ou d'autres pays même qui n'ont pas l'aide sociale. Ça aurait été impossible de faire cela au Mexique ou en Colombie, par exemple. Oui. J'aurais été dans la misère. J'aurais dû suivre beaucoup plus la morale alors que j'avais un désir de liberté. Et j'ai choisi le pays et les gens et la famille qui n'allaient pas être trop... qui n'allait pas trop m'empêcher, parce que je crois que qu'on mette des gens qui t'aident, qui vous aident ou qui vous nuisent, ce sont pas des hasards encore. Si on se fait nuire, il y a parfois quelque chose qui nous dit...
C'est vrai, parce que tantôt, notre ami Robert parlait de Castaneda, et puis moi, je me souviens, ce qui m'avait beaucoup touché, entre autres, chez Castaneda, c'est quand tu parles de l'allié. L'allié, c'est comme ton ennemi, c'est que si tu le rencontres, attention, parce que tu peux complètement te perdre à son contact. C'est pas l'allié dans le sens, normalement, on va dire, bon, c'est mon allié, c'est mon ami. Chez Castaneda, c'est pas tout à fait la même explication. C'est celui qui va, c'est comme ton tyran, d'une certaine façon. Alors, donc, on pourrait dire, c'est ton ennemi. Mais si tu sais lui résister et si tu sais devenir plus fort que lui, finalement, alors tu vas l'annuler d'une certaine façon. Et donc, alors nos ennemis sont peut-être aussi importants que nos propres amis, peut-être même plus.
Mais pour moi, il n'y a pas de différence.
Parce qu'à quelque part, nous les avons attirés de par nos vibrations pour justement pour nous accomplir.
Parce que dans ce sens-là,
c'est toujours ça.
Dans ce sens-là, moi, je crois que l'ennemi va être peut-être t'aider encore plus, d'ailleurs, parce qu'un ami, des fois, va être un peu complaisant. Il va te dire ce que tu veux entendre. Oui, oui. Ton ennemi, jamais. Non. Il va te confronter, puis il va te mettre face à tes propres défauts.
Oui.
Et peut-être que c'est lui qui va te rendre plus fort, justement.
Oui, oui, à tes limites. Il te confronte constamment à tes limites. Il te met toujours au défi. Oui.
Donc, on a les ennemis à notre taille.
À notre taille. C'est ça. Oui.
Je viens de m'en débarrasser un récemment dans ma vie, et puis là, ça m'offre un contraste et une appréciation pour la qualité et puis qu'est-ce qui est désiré. Alors, c'est vraiment... Il y a toutes des leçons partout. Hein? Toutes des informations à extraire de tout ça.
Bien, il s'agit d'être à l'écoute de ça aussi, puis de savoir en tirer partout, par partie. Et puis, il n'y a pas d'échec comme tel non plus, parce que si on sait se servir de nos erreurs, on les rentabilise. Et puis, tout est toujours moyen de tout prendre, finalement, pour...
Et en fait, je crois, moi, je le sens, tout se tient. En tout cas, dans ma vie, je peux voir que tout se tient. Il y a des moments où je me suis dit, pourquoi j'ai étudié en administration des affaires alors que je suis artiste? Je savais qu'à l'époque, je m'intéressais au marketing, mais maintenant, je suis président du mouvement jovialiste. Je vois toutes les choses que j'aurais pas, si j'avais suivi toutes mes amies qui étaient en art, je n'aurais pas développé les qualités. J'étais déjà un artiste, mais j'ai développé des qualités. Je ne savais pas à l'époque, je ne comprenais pas nécessairement au niveau personnel.
Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est par exemple quand on ne décide pas forcément de faire quelque chose, mais que les éléments te resservent sur le plateau par exemple, de prendre en charge telle ou telle responsabilité. Alors que ça ne tente pas plus que ça, et puis tu aurais presque envie de faire profil bas et te mettre un petit peu, te faire oublier. On va te dire, non, en fait, ça ne te dirait pas, ça ne te prendrait pas, ou tiens, moi, je verrais bien que tu fasses ça ou que tu prennes en charge telle ou telle chose.
Oui. Oui, ben...
Alors, c'est sur le rire de Jackie que nous allons terminer cette émission qui portait sur « Les attractions sont proportionnelles aux destinées ». Alors, on a choisi une chanson qui s'appelle « Ma destinée », comme par hasard, de Youssoupha. Et venez visiter notre site web à proposurlebonheur.com et écoutez nos podcasts sur Radio H2O. À bientôt. Moi, je suis à l'aise avec les miens qui m'entourent. Ma grand-mère est sénégalaise, mon père est lyriciste bantou. La dictature de Mobutu, le pays se dégrade. À l'époque, on ne sait pas que la situation est grave. Ça sent le drame et j'aime ma ville, Kinshasa. La semaine, je vais à l'école, le week-end à la madrasa. Y'a trop de force dans ma destinée. Trop de souvenirs de gosses dans ma destinée. Trop de nostalgie d'Afrique dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même, c'est ça même. Ça même, c'est ça ok, même. Septembre 88, Paris me voici. Venu pour les études, pas pour le MIC, j'atterris à Roissy, éloigné de mes racines et de Guine. Ici on m'a parlé des racistes et des skins. Putain, famille immigrée, galère ordinaire. Dans un foyer à Oli, ma première cité c'est la Ravinière. De toute manière, à force de vivre dans la crise, j'ai vite compris qu'on sera jamais des corps de la patrie. Y'a trop de lutte dans ma destinée. Trop d'espoir, trop de chute dans ma destinée. Trop de chemin, trop de but dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. 92, j'écris mon premier 12. J'ai le blues, premier texte sur la tête, la rue comme épouse. Sur ma tête, c'était un délire pour mes potos qui louchaient sur les popos et bougeaient sur mes propos. Yant, enragé trop tôt, je rappe avec Abdoulaye. Et Wallah, les mecs de Sergi connaissent mes premières punchlines. Diable Rouge m'a mis le pied à l'étrier. J'ai pas oublié, Philo et Prod m'ont permis de briller. Y'a trop de rimes dans ma destinée. Trop de souvenirs à Sergi dans ma destinée. Trop d'amour pour le rap dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Octobre 93, souvenir ravageur. Pourquoi je pèse les fichiers, les policiers, les déménageurs? C'était l'enfer, expulsé par des tocards. Je venais des cours et j'ai vu nos affaires sur le trottoir. Trop tard, une femme et quatre enfants jetés à la rue. Le cinquième a craché sa haine à la France, il est en garde à vue. Comment s'en remettre de la bouffe, des habits, la vie d'une famille balancée par la fenêtre. Y'a peu de fric dans ma destinée. Trop de haine anti-flic dans ma destinée. De rancune, d'amertume dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Le 30 mai 2000, Inès a vu le jour. C'est ma nièce, mon amour, je suis en liesse quand c'est pas mon tour. Au-delà de tout, rien n'a plus de valeur que ma famille, que ma femme, ceux qui m'aimaient même dans le malheur. Je sais d'ailleurs que sans eux c'est l'enfer et que je me sens meilleur à chaque fois que je les rends fier. Les parents c'est un abri, un repère et j'espère qu'Inch'Allah, moi aussi je serai père. Y'a trop de rire dans ma destinée, trop d'amour, de sourire dans ma destinée. Trop de bons moments à vivre dans ma destinée. Et c'est ça même, c'est ça même. Ok, 2007 venu pour changer la donne. Je cartonne les mixtapes, kick-tech et voilà mon album. Que la concurrence pardonne mon talent. L'occurrence tu peux détester mais je vais pas rester les bras ballants.